Donc Geneviève, tu avais annoncé que j'allais parler peut-être du pouce dans la bouche, mais je vais vous décevoir parce que ce que je vais dire, c'est un hommage au travail de Geneviève surtout, et je vais me concentrer à quelque chose, sur quelque chose que je n'ai pas beaucoup travaillé, mais qui est central dans la pensée de Geneviève, c'est le regard. Un corps existe dans la mesure où il est habité par des étincelles d'un moi. Ce moi embryonnaire dont parle Geneviève Hague, capable de sentir ce corps comme son corps, de se placer dès sa vie périnatale et pendant des instants initialement fugaces dans la dimension d'une réalité spatiale. Donc ces toutes premières expériences constituent, grâce à des processus proto-introjectifs, les fondements de protoformes de contenance et partant de la tridimensionnalité psychique qui permet au corps d'être vécu comme un moi corporel. Ce sont ces profondeurs des origines de la vie psychique que Geneviève Hague a explorées tout au long de ses recherches et grâce auxquelles elle nous a offert des instruments précieux pour la compréhension des tout premiers moments de la construction d'un sens psychophysique d'exister. Sa terminologie spatio-architecturale nous est devenue indispensable dans nos efforts d'approfondissement de ces états primitifs. C'est grâce à sa vision du corps dans l'espace et des premières expériences de contenance que Geneviève Hague a trouvé les mots pour décrire ces niveaux primordiaux de la corporalité, ces mots qui nous permettent de nous faire comprendre mutuellement dans nos échanges de réflexion. L'expérience primordiale de la circularité de contenance implique inévitablement, dans la dimension du temps, celle de la séparation. L'accès à la tridimensionnalité psychophysique dépendra de la capacité du tout petit de l'homme de tolérer ses angoisses pour découvrir l'existence d'un moi corporel séparé dans l'espace, condition sine qua non pour l'expérience de la représentation de limites et d'un dedans différencié d'un dehors. C'est là que s'installe la fonction fondamentale du regard, du sens à distance par excellence, sur lequel Geneviève Hague a tant réfléchi, et autour duquel elle a formulé les notions fondamentales de la boucle de retour, témoignage de l'acceptation de la limite, ainsi que du rebondissement dans l'autre, grâce auquel l'enfant cherche à la rencontre avec l'autre, reconnu, ne fût-ce que pour un instant, dans son altérité, au niveau d'objet partiel, avant encore qu'entier. La naissance du moi, et par conséquent de l'autre, et la formation du lien qui peut nous mettre en relation, sont deux aspects d'un même processus qui me porte à tolérer d'être seul. Mais pour y aboutir, je dois avoir eu l'occasion et la capacité d'introjecter une expérience de contenance, comme le souligne Geneviève Hague, qui marque la limite entre le moi corporel et le non-moi et qui me permet d'explorer le monde extérieur tout en habitant mon monde intérieur que je contiens et qui me contient, qui me permet de coordonner mes sens, ces antennes réceptives et en partie projectives, d'avoir des ressentis, des vécus qui deviennent des expériences grâce auxquelles se construit le monde psychique qui permettra de former des pensées et d'entrer dans le langage verbal à l'aide duquel je pourrai nommer ce que je perçois, que je ressens et que je pense. Les états autistiques et le corps sans moi. Le corps de l'enfant autiste semble inhabité. Quels que soient les éléments inhibiteurs, le moi embryonnaire de l'enfant autiste n'a pas pu faire face aux premières lueurs de proto-expérience d'être un corps, d'avoir un corps animé et existant dans l'espace. Geneviève Hague dit « Le moi corporel commence par un premier sentiment d'enveloppe ». Tu dis maintenant que tu n'aimes plus tellement le terme d'enveloppe, mais de contenance, disons. Sans un vécu primordial de contenance, le moi potentiel ne peut se centrer autour de soi-même, n'aura pas les moyens pour explorer le monde extérieur à travers les sens à distance, et le corps est alors un corps sans moi, le moi corporel potentiel ayant subi une sorte d'implosion. La notion bionienne de contenance, la métaphore meltzérienne de la dimensionnalité de la vie psychique, et en particulier la pensée de Tastin autour de la bidimensionnalité du fonctionnement autistique, ont inspiré la pensée de Geneviève Haag et nous aident à nous approcher du néant des états autistiques profonds. L'implosion du potentiel de tridimensionnalité psychophysique nous rend témoin de la réalité irréelle et impensable dans laquelle séjourne, sans y séjourner, l'enfant dans l'autisme profond. L'enfant et son corps ne sont pas ailleurs. Ce corps sans moi ne peut être pensé et décrit que dans le négatif, comme résultat d'une soustraction, comme absence sans retour, comme vide sensoriel et mental, où tout semble avoir précipité dans le néant sans laisser de traces. Ce corps se déplace dans l'espace au hasard, tourne en rond sans tourner en rond, sans projet, sans provenance et sans but, sans reconnaître de bornes et de limites, se protégeant ainsi de toute expérience d'existence, de linéarité et d'altérité, d'entrée et de sortie. Les corps de ces enfants se dérobent, se liquéfient, se volatilisent ou se collent en unité adhésive bidimensionnelle à l'objet, afin d'éviter le danger mortel de la perception de l'existence de différence. Le sens à distance, les sens à distance, la vue et l'ouïe s'aplatissent au service d'une tactilité autosensuelle qui démantèle tout danger d'expérience du corps existant dans l'espace, expérience qui risquerait justement de transformer le corps sans moi en un moi corporel, exposé à la perception de sa propre réalité psychophysique et en même temps, inévitablement, de celle de l'autre, reconnu dans son altérité. Le rôle du regard dans la pensée de Geneviève Haag. Le regard des enfants autistes au début de la thérapie nous traverse ou nous évite. Un regard qui voit est incompatible avec le retrait autistique du moment que la vue affirme et confirme l'existence de l'espace tridimensionnel et rend inévitable la perception de la distance qui sépare l'enfant des autres. Des non-moi. Les premiers regards voyants et leur investissement de la part du petit patient sont alors parmi les éléments les plus parlants d'une transformation psychique qui est en train de se mettre en route. Dans les réflexions de Geneviève Haag autour de l'expérience clinique avec les enfants autistes, le regard occupe justement une place privilégiée. Il va de soi que le regard du thérapeute, présence constante et attentive qui accueille et enveloppe, offre à l'enfant l'expérience de la circularité d'un contenant psychique habitant dans la réalité psychophysique spatio-temporelle. Mais au début de la thérapie, l'enfant se protège de ce regard pensant par les moyens radicaux dont il dispose, le démantèlement des sens et la bidimensionnalisation, l'aplatissement du potentiel émotionnel des sens à distance qui se replient sur une tactilité autosensuelle qui suffit à soi-même. La profondeur de la pensée de Geneviève Haag autour de la fonction du regard nous a offert des instruments précieux dans le travail clinique avec ses enfants. Elle écrit « Je voudrais insister sur le rôle préalable fondamental du regard pour l'intégration du tactile qui seul permet de renoncer au toucher. » Je commente, il s'agit de l'ouverture vers la troisième dimension, le passage indispensable d'un toucher totalisant vers une tactilité consensuelle, intégrée et psychisée par le regard, justement. Je cite encore Geneviève en guise d'introduction à deux séquences de matériel clinique qui suivront. Le moi corporel, dit Geneviève, commence par un premier sentiment d'enveloppe qui se construit plus particulièrement avec l'intégration d'un tactile et surtout d'un tactile profond, du contact du dos, allié à la pénétrance du regard. Elle dit encore, la perception de la première relation, celle qui fonde le sentiment d'enveloppe postnatale du bébé, semble être ici, il faut que quelque chose soit envoyé et entre par les yeux au fond de la tête de l'autre, porté par l'image motrice d'une certaine spatialisation du regard, fasse empreinte, puis revienne, faisant rebond vers le noyau émetteur du self, effectuant ainsi une sorte de boucle. Je cite encore Geneviève, « Ce premier sentiment d'enveloppe, qui n'est pas collé à la peau, semble être un sentiment de circularité ou plutôt de sphéricité autour. » Le premier exemple est un enfant qui avait 4 ans et demi au début de sa thérapie, Antonio. Il était sans langage, dans un état d'autisme profond. Son corps volatile se dérobait et semblait se dissoudre au moindre signe d'attention qu'il percevait de ma part. Notre travail se concentra pendant longtemps autour de la nécessité de rassembler ce petit non-corps qui était partout et nulle part, et de l'aider à accepter de se sentir tenu et contenu par ma présence attentive. Au cours de la troisième année de thérapie, un beau jour, Antonio se plaça devant moi, me tournant le dos, puis se mit à plat ventre par terre. Il souleva le bord du tapis Kilim qui occupait le centre de la pièce et s'enfila dessous, la tête en avant. Il rampa lentement, mais avec détermination, d'un bout à l'autre du tapis et émergea, toujours la tête en avant, de l'autre côté, loin de moi. Il se mit alors sur ses pieds, se retourna vers moi avec une expression de stupeur sur son visage. Il m'effleura d'un regard rapide, mais il me vit, puis fit le tour du tapis pour retourner au point de départ et répéter l'action, dans une atmosphère de suspens et de concentration jamais vue. Il y avait dans son activité quelque chose de presque solennel. Je me sentis témoin d'une sorte de rituel profondément significatif qui se déroula dans le silence et ne requit aucune interprétation verbale de ma part. Dans son voyage sous le tapis, Antonio passa de la lumière à l'obscurité et émergea à nouveau dans la lumière, à la suite d'un effort physique considérable. En effet, le tapis n'était pas léger et pesa avec tout son poids sur le dos du petit garçon qui devait mobiliser ses forces physiques pour avancer et ressortir de sous le tapis. S'il le fit, c'est qu'il voulut le faire. Il y eut une intention inconsciente profonde dans son activité qui devait être liée à son besoin de percevoir sous mon regard, je cite Geneviève, la peau du dos et d'organiser un espace derrière. Au niveau du contre-transfert, je sentis que l'enfant vécut une expérience psychophysique profonde. Ce fut l'acte d'une naissance, du passage de la nuit au jour. Ce fut la naissance du moi corporel qui put se produire après avoir développé à des niveaux profondément inconscients un sens de contenance qui lui permet d'accéder au potentiel tridimensionnel de son existence corporelle et psychique. Je vous ai dit qu'il s'agissait de la troisième année d'une thérapie intense. Avec la séquence du tapis, Antonio semblait avoir représenté dans tous ses détails la formulation de Geneviève Hague, que je reprends. Le moi corporel commence par un premier sentiment d'enveloppe, disons de contenance, qui se construit plus particulièrement avec l'intégration d'un tactile profond au contact du dos, allié à la pénétrance du regard. C'est bien ça. Le regard d'Antonio à la sortie du tapis n'était pas long ni pénétrant. Il m'effleura à peine, mais il avait besoin de vérifier que mon regard à moi l'attendit et le reçut lorsqu'il vint à la lumière. Puis il découvrit, en contournant le tapis pour revenir au point de départ, une forme dans l'espace qui évoqua la déambulation en boucle dont parle Geneviève, expérience essentielle pour la construction d'un moi psychophysique contenu et en relation. Geneviève formule l'hypothèse dans le développement normal du bébé, je cite, d'une perception circulaire et sphérique du self. Elle ajoute qu'il pourrait s'agir d'un tout premier niveau de représentation du moi corporel, de la catégorie des idéogrammes de Bion, ou des formes plastiques correspondant au premier fantasme décrit par Susan Isaacs. Si Antonio, qui était encore sans langage, avait pu parler au moment de son émergence, il eût pu dire « me voici, j'existe ». Rappelons que la racine étymologique latine du verbe « existere » illumine en profondeur notre compréhension du passage sous le tapis de ce petit garçon. « Exister »,« existere » signifie en effet « sortir », »,« se manifester », »,« émerger », »,« se lever », »,« apparaître », »,« devenir ». Les mois passèrent et le passage sous le tapis se répéta d'innombrables fois, d'une séance à l'autre. L'activité d'Antonio ne devint jamais stéréotypée. Elle semblait être nécessaire pour renforcer son sens d'exister, de pouvoir se déplacer volontairement dans un espace réel, de perdre et de reconquérir ma présence et mon regard, et de renforcer encore et encore le parcours de la boucle de retour, en contournant le bord du tapis, complétant ainsi le cercle décrit dans l'espace par son mouvement. Un jour, plusieurs mois plus tard, Antonio transposa ses passages sous le tapis en une véritable représentation. Il vint à la table, prit une feuille de papier et la courba pour lui donner la forme d'un arc. Il me fit comprendre qu'il voulait que je colle la feuille courbée sur la surface de la table avec du ruban de scotch. Il enfila alors d'une main un petit mouton dans ce tunnel qu'il nomma Gaglia, Galleria, c'était un de ses tout premiers mots. Il se déplaça légèrement vers la sortie du tunnel tout en faisant avancer le mouton qu'il ne pouvait pas voir pendant son passage. Il l'attendit dans un état de léger suspens. Lorsque, poussé par sa main, il vit réapparaître le mouton à la sortie du tunnel, il dit « Ecco !» d'un ton qui trahissait un profond soulagement. L'expérience d'être enveloppé et contenu dans l'attention psychophysique de la thérapeute pendant une longue période de séance avait permis enfin à ce petit corps sans substance et sans conscience de soi de naître, d'exister, de se transformer en un moi corporel avec sa capacité de mouvement orientée dans l'espace et ses sens éveillés, le tactile au sol en quadrupède, le tactile au dos avec le tapis qui le couvrait en carapace de tortue, puis l'auditif et le visuel, à savoir les sens qui reconnaissent et acceptent la distance entre le moi et le non-moi. Les processus de projection et d'introjection bloqués dans les états autistiques, mais irrenonçables pour le développement de toute activité mentale, s'étaient mis en mouvement. L'espace tridimensionnel put être exploré dans la réalité contenante du tapis avec son entrée et sa sortie. Alors, je saute mon dernier commentaire parce que j'y tiens à, vous apporter le deuxième cas qui est la toute dernière séance d'une longue thérapie de 5 ans d'un petit garçon. Et il s'agit là de l'introjection du regard et l'introjection de la fonction thérapeutique. Geneviève se demande, est-ce au cours du voyage dans le regard que se font les transformations en même temps que l'affermissement du sentiment existentiel? Je vous propose en conclusion un bref extrait de séance d'un d'autres petits patients qui racontent le rôle central du regard dans le processus de transformation d'un corps sans moi à un moi avec son corps, ses sens, ses émotions, ses pensées, ses identifications projectives et introjectives, son langage verbal et ses récits. Je remercie la thérapeute du petit garçon Martino, Giulia Dal Pos. J'ai fait la supervision de ce cas. Martino était enfant unique, arriva à la première consultation à l'âge de 2 ans. Il était isolé, n'acceptait pas d'aller, que des aliments semi-liquides, il émettait quelques vocalisations mais semblait sourd. Le regard était évitant et périphérique. Pendant les premiers mois de psychothérapie, l'enfant passa les séances aplati par terre, son corps collé au plancher ou avec le regard perdu hors de la fenêtre. Mais au cours des années, les progrès de Martino ont été tels qu'à l'âge de 7 ans, il fut possible de penser à la conclusion de sa thérapie. Il parle, il joue, interagit avec son entourage et est bien intégré à l'école primaire. Pendant cette dernière période de travail, la thérapeute lui a beaucoup parlé des grands changements au cours de leur histoire commune, de combien Martino a grandi, de ses nouvelles capacités. Un jour, il dit « Quand j'étais petit, je faisais « ouin, ouin ». Et la thérapeute, et maintenant, nous parlons ensemble, et tu as appris à faire tant de nouvelles choses. » Martino a réfléchi un instant, puis il a répondu « La doctoresse regarde Martino. » Et voici en conclusion de mon intervention un bref extrait de la toute dernière séance de psychothérapie de ce petit patient. Témoignage de l'unité psychophysique d'un moi corporel qui maintenant existe, avec ses fragilités bien sûr, mais aussi avec sa capacité de contenance émotionnelle réparatrice. Martino entre lentement dans la pièce. Je lui dis qu'aujourd'hui nous allons nous dire adieu. Il ne fait pas signe d'avoir entendu, mais me demande de prendre dans sa boîte trois personnages. L'enfant, la maman et le papa, et de les mettre assis l'un à côté de l'autre sur la table. Lui-même prend la petite auto verte, qui au début de la thérapie était l'objet autistique qu'il serrait dans sa main tout au long des séances. Aujourd'hui, il fait passer l'auto à toute vitesse devant ce petit public, en allant et retour, et accompagne son mouvement avec des vrombissements puissants de moteur. Martino me dit de bien regarder moi aussi, et de faire au nom des trois spectateurs des exclamations, des « waouh » d'admiration. Je reprends alors l'expression de Martino d'il y a quelques séances, et je dis « La famille regarde l'auto, et la doctoresse regarde Martino. » Le regard dans l'enfant s'illumine. Il se met debout et dit que nous devons tous le regarder, moi et les personnages. Il fait une petite course à travers la pièce, mais il trébuche et il tombe par terre. Son poignet lui fait mal. Martino se met à pleurer. Au lavabo, nous tenons sa main sous l'eau froide pour calmer la douleur. Après un moment, il dit « Ça suffit, qu'il a moins mal, que ça va bien. » Mais, ajoute-t-il, « pas encore benissimo. » Il retourne vers sa chaise, s'assied et regarde sa main. Là, nous pouvons nous demander, c'est la toute dernière séance d'une longue thérapie, s'agissait-il encore d'une répétition d'une chute catastrophique ou plutôt d'un atterrissage, comme nous allons voir. Son expression, maintenant, est triste. Il regarde sa main, il détourne son regard. Je lui rappelle qu'aujourd'hui, nous allons nous dire adieu. Et que peut-être Martino a un peu peur, et il a pensé que la doctoresse le laisse tomber. Je lui demande s'il est triste. Il répond oui. Je lui demande s'il est aussi fâché. Non, triste, répond-il. Après un instant, il se ranime et me demande de raconter au personnage ce qui vient de se passer. Je raconte alors à la famille que Martino était en train de courir dans la pièce, que la doctoresse le regardait, mais alors, poum, il est tombé et s'est fait mal au poignet. J'ajoute à l'adresse des personnages, mais vous savez, aujourd'hui c'est un jour qui peut faire un peu mal, parce que Martino et moi, nous allons nous saluer. Et se saluer, c'est triste. Martino continue lui-même le récit et raconte avec émotion à la petite famille comment on soigne les blessures. Avec de l'eau froide, puis aussi avec de la glace et de la pommade et un pansement. Puis il se retourne vers moi et me demande de faire tomber les trois personnages assis. Je les remets debout, fais faire à chacun quelques pas avant de les faire tomber sur la surface de la table. Martino me demande alors de les soigner et observe de près mes gestes de cure. Au bout d'un moment, il assume lui-même le rôle du docteur et soigne les membres de la petite famille avec attention et participation. Lorsqu'ils lui semblent guéris, il les remet dans la boîte et leur dit adieu. Je vous remercie. Thank you.